Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene.
Bien, bonjour à tous. On va continuer notre exploration de ce domaine des graphiques et de leurs mécanismes cognitifs et cérébraux. On est dans un cours intermédiaire, un peu comme dans Harry Potter, donc le cours 3 bis, là, parce que je me suis arrêté trop tôt la semaine dernière. Et je voudrais vous parler donc encore un tout petit peu de la correspondance entre les nombres et l'espace. Et puis ensuite, on va aborder la suite du cours, la perception de la partie donnée des graphiques elles-mêmes. Alors, donc rapidement, la semaine dernière, on avait vu que pour des graphes comme celui-ci, c'est intéressant parce que je peux utiliser les graphes de mes propres données comme illustration, hein, on a besoin d'une correspondance entre les nombres et l'espace. Le nombre qui est sur l'axe des X est mis en correspondance avec l'espace horizontal ici du graphique. Alors, cette perception est assez intuitive. On a vu que beaucoup de cultures ont spontanément l'idée d'utiliser l'espace pour représenter les nombres et que cette intuition est présente en Amazonie, chez les Indiens Munduruku, chez des jeunes enfants et on avait même vu chez des espèces animales, y compris les petits poussins. Vous vous souvenez qu'il y a une notion intuitive de correspondance et alors pas seulement entre nombre et espace mais même la direction. Et le graphe ici sur la droite illustre donc ce fameux effet Snark qu'on avait découvert avec quelques collègues en 1993, publié en 93, qui est donc le fait que chez chacun d'entre nous, on ne peut pas s'en empêcher, inconsciemment, dès qu'on voit un chiffre ou un nombre, on associe les petits nombres dans l'intervalle, dans le contexte considéré, les petits nombres avec la main gauche, plutôt avec le côté gauche de l'espace, et les grands nombres avec le côté droit de l'espace. Une espèce d'association tout à fait automatique, nombre-espace. Alors, ce biais, on a vu, existe déjà chez les jeunes enfants, et en fait, existe déjà chez d'autres espèces animales. C'est quelque chose de très profond dans l'évolution, pas très bien compris, mais en tout cas quelque chose dont il faut tenir compte dans nos graphes, et effectivement, nos graphes mathématiques vont presque toujours hein, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Alors, l'échelle de ces graphes est aussi intuitive, mais on a vu que l'intuition au départ est celle d'un logarithme, d'une échelle compressive où les grands nombres sont plutôt regroupés ensemble et l'échelle linéaire prend du temps à se développer chez l'enfant avec l'éducation. Alors aujourd'hui, je voudrais donc continuer ce cours en parlant des mécanismes neuronaux de cette correspondance nombre-espace. On va voir que ça a l'air de se passer dans le lobe pariétal et on va bien sûr insister sur le fait qu'il faut respecter cette correspondance nombre-espace dans l'ergonomie des graphiques. Alors quel est le lieu pour l'effet Snark dans le cerveau? C'est l'occasion de mentionner donc ce poème, La chasse au Snark, de Lewis Carroll. Et dans le poème La chasse au Snark, il y a la question du lieu rêvé pour un Snark. C'est la traduction d'Aragon, ici, que je vais vous lire. « L'endroit rêvé pour un Snark, cria l'homme à la cloche qui débarquait l'équipage avec soin, soutenant chaque homme à la crête des vagues par un doigt pris dans ses cheveux. L'endroit rêvé pour un Snark, ça fait deux fois que je le dis, ça en serait assez pour encourager l'équipage. L'endroit rêvé pour un Snark, ça fait trois fois que je le dis, ce que je vous dis trois fois est vrai. » Bon, alors c'est de la poésie, on va essayer de faire un petit peu de science, mais donc quel est l'endroit rêvé pour un Snark? Eh bien, nous pensons, sur la base de beaucoup de données, que le lobe pariétal et la région intrapariétale, qu'on voit ici en couleur, dans les deux hémisphères, pourraient jouer un rôle clé. Pourquoi? D'abord parce que cette région, et ça fait plus de 20 ans maintenant, ce sont des données assez anciennes que je vais vous montrer, eh bien, cette région est impliquée dans le sens des nombres. Dès que vous réfléchissez à des nombres, cette région s'active, et quelle que soit la tâche que vous ayez à faire, même une tâche aussi simple que de décider que 5 est plus grand que 4, ou d'approximer une addition, même sans faire le calcul, ou simplement de détecter la présence d'un chiffre parmi des lettres, toutes ces tâches vont activer cette région. Et on pense qu'elle joue un rôle au niveau de la représentation sémantique des nombres, de la quantité des nombres, parce qu'elle répond, quel que soit le format d'entrée des nombres, et plus que pour d'autres catégories. Et son activation varie aussi en fonction de la distance entre les nombres, donc de la difficulté de la tâche, de la précision avec laquelle on doit quantifier les nombres. Donc nous avons pensé que cette région était un bon candidat, d'autant plus qu'elle est entourée de régions qui s'intéressent à l'espace et à l'appréhension de l'espace de différentes manières. Dans ce travail avec Olivier Simon, déjà ancien, et les collègues d'Orsay, maintenant Neurospin, on avait cartographié différentes fonctions chez les mêmes sujets très rapidement. Le fait d'attraper des objets, donc de tenir compte de leur position dans l'espace, le fait de déplacer les yeux dans l'espace, le fait de pratiquer des tâches de pointage avec le doigt, de bouger les yeux ou l'attention attention. Et on avait vu qu'il y a une carte très systématique, que vous voyez ici, dans laquelle les activations liées au calcul, au centre du sillon intrapariétal, sont entourées de régions qui peuvent se superposer un tout petit peu avec les aires du langage ici, mais surtout être impliquées dans l'appréhension des objets avec les mains, dans les tâches manuelles, qui sont un petit peu plus haut ici dans les coupes, et puis à l'arrière du cerveau, dans les tâches de déplacement des yeux et dans les tâches de déplacement purement de l'attention, sans déplacer les yeux. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de fonctions visio-spatiales qui sont mises en œuvre ici dans ces régions pariétales, parmi lesquelles la représentation des nombres. Et déjà, c'est un indice très précieux que les nombres et l'espace sont très intimement reliés. D'autant plus que cette cartographie, elle ressemble à celle qui existe depuis longtemps dans l'évolution, et donc chez le singe macaque, on trouve une carte assez similaire, avec des régions antérieures qui s'intéressent à la position de la main et à le fait d'attraper les objets ou de pointer vers les objets, et puis à l'arrière, des régions qui s'intéressent au mouvement de l'attention, au déplacement des yeux. Et c'est sur la base de cette carte que Andreas Nieder était allé planter ses électrodes chez le singe dans la région intrapariétale ici et a découvert qu'il y avait des neurones des nombres qui répondent donc aux quantités numériques guidées par nos observations chez l'homme. Chez l'homme, on ne peut pas voir les neurones individuels, en tout cas très difficilement, mais l'imagerie nous avait dit que cette région est impliquée dans les nombres et le calcul, et Andreas Nieder, chez le singe, a pu observer des neurones des nombres dans cette région ainsi que dans la région frontale ici. Donc, on a toutes ces données qui suggèrent que les nombres et l'espace sont intimement reliés dans des régions très proches et peut-être même qui se recouvrent. Alors, ce travail a énormément avancé depuis une vingtaine d'années. Beaucoup de travail du laboratoire, que je vous ai d'ailleurs déjà présenté, notamment les travaux d'Evelyn Egger. Mais ici, je vous présente le travail absolument remarquable de Ben Harvey et Serge Dumoulin, qui ont mis en évidence des cartes de la numérosité, c'est-à-dire la quantité numérique d'un ensemble d'objets. Ils utilisent des techniques similaires à celles qui permettent de mettre en évidence la rétinotopie, c'est-à-dire la correspondance entre la rétine et le cortex. Mais ici, c'est la numérotopie, c'est-à-dire le fait que quand on change le nombre, eh bien, on déplace l'activation très légèrement à la surface du cortex. Donc sur cette image, ici, très rapidement, vous avez deux sujets qui chacun ont des régions dans lesquelles l'activité varie en fonction de la taille des nombres qui sont présentés entre 1 et 7. Les nombres sont présentés sous forme de nuages de points. On fait, un peu comme pour la rétinotopie, on fait déplacer progressivement la représentation de 1 jusqu'à 2, puis 3, 4, 5, 6, 7. Donc le nombre augmente progressivement, comme ça, sous forme de vagues. Et on peut détecter les vagues correspondances d'activité à la surface du cortex. C'est ça que permet cette analyse ici. Et les couleurs, à la fin, représentent le nombre préféré par différentes régions du cortex. Alors ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qui soit codée à cet endroit du cortex, mais ça veut dire qu'il y a une préférence pour certains nombres par rapport à d'autres à la surface du cortex dans toutes ces régions, vous voyez. Alors c'est pas seulement la région intrapariétale bilatérale, même si c'est sans doute la plus importante, mais il y a aussi des régions frontales ou précentrales ici, et puis des régions temporales inférieures, et on voit ce réseau systématiquement dès qu'on fait des tâches mathématiques, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est intéressant de voir, donc il y a une topographie corticale, partielle, des nombres dans ces régions, et surtout aussi les mêmes auteurs, Ben Harvey et Serge Dumoulin avec leur équipe, ont montré qu'il y avait aussi une carte de la taille des objets. Si on fait varier la taille d'un objet de façon progressive, depuis un petit objet jusqu'à un grand objet, on voit qu'il y a aussi des activations qui se déplacent légèrement à la surface du cortex, et il y a un recouvrement de ces activations pour le nombre et pour la taille des objets dans le cortex pariétal. Donc ce sont deux cartes qui sont superposées. On a cette idée de plus en plus que le système nerveux fonctionne en faisant une sorte de multiplexage de l'information. Il est capable d'utiliser la même région pour coder deux informations différentes, mais évidemment il y a un risque qu'il y ait une interférence, et peut-être que c'est de là que vient cette interférence ou cette association entre nombre et espace. Autre indication, dans toutes ces régions, et surtout dans la partie donc occipito-pariétale ici, mais jusqu'à des régions pariétales dorsales, il y a des cartes rétinotopiques. Ça, c'est le travail beaucoup plus ancien de Saïjin et Serino. Et en particulier, lorsqu'on demande au sujet de faire attention à un film qui se déplace dans différentes régions de la rétine, donc on fixe, on ne bouge pas les yeux, mais on fait attention à différentes régions de la rétine, eh bien, on voit qu'on découvre des cartes systématiques dans l'hémisphère gauche comme dans l'hémisphère droit. L'hémisphère droit répond à la partie gauche du champ visuel, l'hémisphère gauche répond à la partie droite du champ visuel, et dans les deux cas, il y a des petites cartes, jusque dans cette région qu'on appelle LIP, ou pariétale postérieure, on parle maintenant de IPS 1, IPS 2, intrapariétal sulcus 1 et 2, ce sont des régions donc dans lesquelles il y a une topographie des activations en fonction de l'endroit de l'espace auquel on fait attention, d'accord, partie droite ou partie gauche de l'espace. Donc toutes ces régions sont finalement d'excellents candidats pour un recouvrement des activations entre nombre et espace, et donc peut-être cette fameuse association petit nombre à main gauche et grand nombre à main droite, ou petit nombre dans l'espace gauche et grand nombre dans l'espace droit. Alors, c'est ce qu'on a voulu faire avec Ed Hubbard, c'est de trouver vraiment des endroits où il y a cette interférence qui surgit. C'est un travail qui date de 2006 et malheureusement n'a jamais été publié pour des raisons de déplacement des personnes, etc. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve que c'est un travail assez joli. On avait donc mis des sujets dans l'IRM et on leur a fait faire la tâche qui suscite l'effet SNARK, c'est-à-dire la tâche où on présente des chiffres sur un écran, et les sujets doivent cliquer à droite ou à gauche. Pour les faire cliquer à droite ou à gauche, on leur demande de juger la parité des nombres, donc ils doivent dire si c'est pair ou impair, et suivant les différents blocs, ici vous avez quatre blocs différents de l'expérience, on leur demande de répondre soit pair à main droite, soit impair à main droite, ce qui change les mains de réponse. Et pour rendre la chose encore un petit peu plus perverse ici, si on peut dire, dans l'IRM, on leur a demandé, pour la moitié des blocs, de croiser les mains. Je vous avais parlé de cette expérience la semaine dernière. On peut faire croiser les mains et ça ne change rien pour l'effet SNARK. On continue d'associer les grands nombres avec la main droite, pardon, avec l'espace droit, je m'exprime mal ce matin. Les grands nombres continuent de rester associés à l'espace droit et les petits nombres à l'espace gauche, même quand on répond avec l'autre main. Voilà. Donc on voulait vérifier ça dans l'IRM et analyser donc d'où provient cet effet. Donc ici, vous voyez qu'il y a trois facteurs orthogonaux dans cette expérience. À la main de réponse, le côté de l'espace avec lequel on répond et la taille des nombres, petits ou grands. Les nombres allaient, je crois, de 1 à 9, ou de 0 à 9 peut-être, je ne sais plus. Alors ensuite, on avait aussi un localizer, comme on l'appelle, pour identifier les régions qui répondent aux saccades visuelles, vers la droite ou vers la gauche, et puis un localizer pour l'arithmétique, les régions qui répondent aux calculs avec des problèmes de soustraction, parlé ou écrit, par rapport à des phrases qui ne parlent pas de nombres. Voilà un petit peu le dessin expérimental de cette expérience. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que dans l'IRM, même si les sujets sont allongés, un petit peu désorientés par un miroir qui leur fait voir un écran à la sortie de l'IRM, eh bien, ils ont encore un très bel effet SNARK. Vous voyez qu'ici, les petits nombres, alors c'était de 1 à 8, on le voit ici, les petits nombres sont associés à des réponses plus grandes du côté gauche de l'espace et les grands nombres à des réponses plus rapides du côté droit de l'espace. Donc c'est, vous voyez, un effet qui est assez systématique, qu'on réplique à tous les coups, et qui dépend de l'espace et pas de la main, ici, une fois de plus. Donc la main n'a pas d'importance. Alors pour analyser les régions concernées, on a défini plusieurs régions d'intérêt sur la base de leurs coordonnées spatiales. La première chose qu'on peut faire, c'est trouver des régions qui s'intéressent à la main droite versus à la main gauche. Bon, on pense que c'est pas ça qui va intervenir, mais c'est facile de trouver donc des régions contralatérales qui répondent plus, par exemple, à la main droite qu'à la main gauche ici. Deuxième localisation, plus intéressante, sont des régions qui s'intéressent au côté droit de l'espace et au côté gauche de l'espace. Donc là, on fait un contraste entre j'ai répondu du côté droit ou j'ai répondu du côté gauche, quelle que soit la main, et ce contraste permet d'isoler, vous voyez, des régions du cortex intrapariétal antérieur, très postérieur ici, et puis ventral. Mais surtout, on va analyser cette région ici antérieure. Troisième localizer, si l'on peut dire, c'est le déplacement des yeux. Lorsque vous bougez vos yeux vers la droite, il y a plus d'activation dans la région gauche, ici, au niveau surtout du cortex pariétal postérieur. On va regarder donc spécifiquement ces régions pariétales. Et dernière localisation, pardon, représentation donc du calcul, ça je vous l'ai dit, c'est très systématique. C'est n'importe lequel d'entre vous ici dans cette pièce, si vous faites des petits calculs, si vous réfléchissez au nombre, vous activez systématiquement cette région centrale, horizontale, du sillon intrapariétal dans les deux hémisphères. Alors voilà à quoi ressemblent ces régions concernées par l'espace en coupe. Vous avez ici trois niveaux de coupe, plutôt antérieur, milieu et postérieur. Et verticalement, vous avez ces trois contrastes qui sont représentés ici avec des couleurs. Donc l'espace droit est représenté en rouge et l'espace gauche est représenté en bleu. Et donc pour la main, c'est extrêmement clair, ce sont des régions proches du sillon central qui répondent à la main. Pour l'espace, ce sont des régions un petit peu plus au milieu ici du sillon intrapariétal. Et pour les saccades, je vous l'ai dit, c'est très en arrière du sillon intrapariétal qu'on voit cette réponse ici. Alors, la question, c'est quelles sont parmi ces régions lesquelles s'intéressent à la taille des nombres. S'il y a une interférence, il doit y avoir une correspondance entre la représentation de l'espace et la taille des nombres. Alors pour le regarder, on avait fait cette analyse ici, dans laquelle vous avez chacune des régions d'intérêt horizontalement, donc c'est ce qu'on appelle ROI ici, ça veut dire région d'intérêt, region of interest en anglais, donc pour la main, pour l'espace, pour les saccades et pour le calcul ici. Et pour chacune d'elles, on regarde si elle a une préférence pour différents facteurs, la main, l'espace, les saccades et la grandeur des nombres. Alors, donc, en rouge, ça veut dire plus d'activation pour la droite ou pour les grands nombres que pour la gauche, et en bleu, plus d'activation pour la gauche ou pour les petits nombres que pour la droite, l'inverse, d'accord. Alors, la diagonale, c'est évident ici, parce que c'est comme ça qu'on a défini ces régions, n'est-ce pas ? Il y a des régions qui répondent à la main, des régions qui répondent à l'espace, et des régions qui répondent aux saccades. Tout ce qui est en dehors de la diagonale, par contre, ça n'est pas complètement trivial. Ce sont des crosstalk, comme on va dire en anglais, des interférences entre des dimensions différentes des stimuli. Et on voit par exemple que la région qui répond à l'espace ici répond aussi un petit peu aux côtés de la main. Il y a une interférence entre main et espace. Ce n'est pas exactement purement la représentation de l'espace qui est en jeu ici. Et alors si on regarde la colonne sur la grandeur des nombres ici, il y a ce phénomène donc intéressant, c'est que uniquement dans la région pariétale postérieure, celle qui s'intéresse aux saccades, eh bien il y a une différence entre les petits nombres et les grands nombres dans le bon sens. C'est-à-dire que le côté qui aime la partie droite de l'espace aime aussi les grands nombres, et le côté qui aime la partie gauche de l'espace aime aussi les petits nombres. Donc nous pensons que c'est peut-être là que se situe cette interférence entre nombre et espace. C'est la seule région, vous voyez ici, où il y a un effet de la taille des nombres qui est congruent avec la direction de l'espace qui est utilisée par les sujets. Voilà un petit peu comment on peut analyser ces données. On trouve au niveau cérébral un recouvrement des dimensions gauche-droite et des dimensions petit-grand pour les nombres qui sont en correspondance. Voilà. Uniquement cette région pariétale postérieure. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que cette région pariétale postérieure, on l'a trouvée aussi dans d'autres travaux et dans un papier de Science en 2009 avec André Knopf et d'autres collègues, notamment Ed Hobart et Bertrand Thirion, eh bien on a trouvé que cette région effectivement crée une interférence, est le siège d'une interférence entre les déplacements des yeux et le calcul. Et je vous avais parlé du fait qu'on peut lire la taille des nombres en regardant les mouvements des yeux des gens dans le noir. Si vous vous souvenez, quand on génère des nombres aléatoires, on va bouger les yeux vers la droite quand on va vers les grands nombres et vers la gauche lorsqu'on va vers les petits nombres. Alors, inspiré par toutes ces recherches, on avait donc fait une deuxième expérience, là, qui était parue dans Science, où on fait la manip suivante. On commence par faire des mouvements des yeux au sujet dans l'IRM et on voit que, conformément aux données que je vous ai présentées, on peut décoder de quel côté le sujet va bouger les yeux sur la base de l'IRM. C'était le tout début du décodage, ici en 2009, c'est devenu une industrie, c'est assez logique, il y a une correspondance entre ce que le sujet fait et ce qui s'active dans son cerveau, donc maintenant si je vois ce qui s'active dans son cerveau, je peux dans une certaine mesure déduire ce qu'il a fait. Et là, je déduis comment il a bougé les yeux, d'accord ? Et là, le sujet bouge effectivement les yeux. Mais ensuite, on va passer dans un deuxième bloc, et on arrive à peu près à 70% correct. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec des IRM plus modernes et des techniques d'intelligence artificielle un peu plus poussées, on arriverait pratiquement à 100%. On est vraiment capable de voir des essais individuels dans l'IRM. Donc, chez 14 des 15 sujets, on arrivait à décoder les mouvements des yeux. Et ensuite, on passe dans une deuxième tâche où on leur fait faire des additions et des soustractions. Et on s'assure qu'ils ne bougent pas les yeux. On mesurait la position des yeux, ils ne les bougent pas. Mais mentalement, ils additionnent deux quantités ou ils soustraient deux quantités et ils choisissent parmi toute une variété de choix possibles quel est celui qui est le plus proche. Donc ils font une addition ou une soustraction avec des quantités. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. On peut trouver une correspondance entre les saccades à gauche et la soustraction et les saccades à droite et l'addition. D'accord. Donc le même décodeur qui a été entraîné à dire si le sujet bouge les yeux vers la droite ou vers la gauche, lorsque le sujet ne bouge pas les yeux, mais est impliqué dans une activité mentale qui demande de réfléchir à la ligne numérique, de réfléchir comment les nombres sont organisés, eh bien ce décodeur voit une sorte de mouvement vers la gauche quand c'est une soustraction et une sorte de mouvement vers la droite quand c'est une addition. D'accord ? Ce n'est pas un effet énorme, hein, mais ça veut dire à nouveau que dans cette région, il y a un recouvrement, qu'on utilise les mêmes régions du cerveau pour faire des déplacements réels des yeux et de l'attention, et pour faire des déplacements imaginaires, en quelque sorte, sur la ligne numérique, en correspondance avec les nombres, avec les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. Donc une addition, ça se déplace vers les grands nombres, une soustraction, ça se déplace vers les petits nombres. Il y a plein d'autres recherches psychologiques qui suggèrent qu'il y a cette correspondance. Il fait que la ligne numérique, la notion d'un espace des nombres de la gauche vers la droite, est vraiment une des composantes centrales de la représentation des nombres. C'est pour ça qu'à l'éducation nationale, on insiste tant sur ce concept de ligne numérique, parce qu'au moment où on apprend aux enfants comment manipuler les nombres, eh bien, avoir joué avec des jeux de plateau, par exemple, avoir joué avec la ligne numérique, permet de comprendre que 7 plus 2, c'est deux cases de plus à droite de 7, on se déplace de 2 et on arrive à 9. Voilà. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses sur l'espace des nombres, et en particulier la linéarité des nombres. Donc tout ceci a l'air de se passer dans le sillon intrapariétal et peut-être particulièrement dans la partie postérieure du sillon intrapariétal, là où des régions sont impliquées dans l'attention, que ce soit une attention spatiale réelle, bouger les yeux, faire attention à l'espace, ou une attention interne tournée vers des représentations abstraites de la ligne numérique. Alors, quelques implications pour terminer ce cours 3 bis de cet effet SNARK. Ben, en fait, donc tout le monde préfère les petits nombres à gauche, les grands nombres à droite. Ne le contredisons pas dans des graphiques. C'est juste un exemple de plus de ces fameux effets de congruence, et en particulier vous connaissez, je pense, l'effet Stroop. Si vous essayez de nommer la couleur des mots qui sont affichés ici, donc vous devez dire bleu, rouge, vert, mais ça devient beaucoup plus difficile ici lorsque vous devez dire rouge, vert et bleu, d'accord ? Donc, c'est un effet Stroop, c'est un effet d'interférence, il y en a énormément comme ça. L'effet SNARK est un effet Stroop, c'est une interférence particulière entre nombre et espace. Donc, ne confusionnons pas, si je puis dire, les sujets en violant cette association. Voilà un exemple intéressant ici. Je vous laisse voir ce graphe qui parle de la... Alors, je vous laisse découvrir, hein, il parle de la position de l'Irlande à travers les années sur l'axe des X dans aux Jeux Olympiques. D'accord. Alors l'Irlande, elle a progressé ou pas? Elle a progressé, ouais. Mais vous voyez le problème, hein, elle a progressé avec une courbe qui descend. Ouais. Et pourquoi? Alors c'est idiot, c'est parce qu'ils ont choisi de mettre le rang de l'Irlande dans les médaillés olympiques. Voilà. Donc 14e rang, c'est mieux que d'être au 63e rang dans l'échelle des pays aux Jeux Olympiques. N'est-ce pas ? Bon, c'est une violation de nos attentes, en tout cas, qui est qu'une courbe qui croît, c'est mieux. Vers le haut, c'est mieux. Vers le bas, c'est moins bien. D'accord. D'autres exemples sont donnés par Koslin. Koslin dit, je n'ai pas pu vraiment vérifier ça, mais que les couleurs chaudes, on s'attend à les trouver devant et les couleurs froides derrière. Et donc, si vous avez un graphe à faire, il faut respecter cette correspondance. C'est vrai dans les peintures, par exemple, je crois qu'on attribue souvent cette idée à Léonard de Vinci, qu'on doit représenter la partie arrière de l'espace, très loin, les montagnes, sous forme bleue ou bleuâtre. D'autres conventions culturelles, vert, ça veut dire oui, rouge, ça veut dire non. Donc, si vous avez une courbe à faire, ben, ne violez pas ce genre d'association. Ce sont des associations implicites, extrêmement profondes, très inconscientes. Celle-ci est apprise, mais quelque part, sont attendues lorsqu'on lit un graphique. Alors, il y a aussi le fait que nous sommes capables de lire des échelles linéaires et logarithmiques. On a vu que peut-être même une échelle logarithmique était très intuitive pour les jeunes enfants, en tout cas approximativement, hein. Mais dans tous les cas, sur le plan de l'échelle, on attend un arrangement régulier des données. régulier qui peut être linéaire ou logarithmique. Alors, ça c'est la deuxième recommandation, cette correspondance entre nombres et espaces est tellement profonde qu'il ne faut pas la violer dans les graphiques. Mais on trouve énormément de violations de cela dans les graphiques réels. Je vous laisse regarder celui-ci, qui est assez récent, hein, 2024, LCI. On a l'impression que le RN est en train d'emporter tout le monde, hein, et pourtant l'échelle est fausse. L'échelle ne respecte pas les écarts entre les différents groupes, ici en particulier entre 18% et 5%, il n'y a pas la même différence qu'entre 28 et 10 ou entre 33 et 28. Ils n'ont pas du tout respecté une échelle linéaire ici, et on peut toujours se demander si c'est une erreur ou si c'est volontaire. Ici, il y a une erreur assez extraordinaire quand même. C'est toujours nos élections à nous. Vous voyez que l'extrême droite emporte énormément de sièges, alors que ce n'est pas le cas du tout sur les nombres qui sont indiqués. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On soupçonne que la télévision ici a préparé un graphique en anticipant que ça allait être un raz-de-marée pour l'extrême droite, et puis ils ont mis les chiffres ensuite sans mettre à jour le graphique. Donc ça veut dire que nous devons avoir une vigilance extrême vis-à-vis de cette correspondance entre les nombres et l'espace, parce qu'elle est très souvent violée. Je vous montre encore quelques exemples. Ici, c'est l'espérance de vie des plus grands pays du monde. Les États-Unis sont en tête, évidemment. Même si, quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas du tout en tête, les États-Unis devraient être là. Et encore un autre exemple, les conservateurs en Angleterre, ici au Royaume-Uni, qui gagnent très largement, 36, alors que 25 est là tout en bas et 16 est ici tout en bas. Ouais. Donc on parlait de l'intégrité graphique. Vous vous souvenez que Tufti insistait beaucoup sur l'intégrité graphique. L'intégrité graphique, ça passe par le respect de nos attentes vis-à-vis des graphiques et notamment de l'attente d'une échelle régulière. Je vous laisse encore regarder celui-ci, qui est assez terrible parce que c'est vraiment de la manipulation. Les Américains sont littéralement remplacés par les étrangers sur le marché du travail. Voilà, ce qu'on trouve sur Twitter. Alors vous regardez cette courbe et vous voyez effectivement, bon sang, ceux qui sont nés à l'étranger, vraiment, surtout dans les années récentes, ils sont en train vraiment de dominer notre pays. D'accord ? Vous voyez la manipulation là ? Donc la légende est là, donc la courbe bleue c'est les étrangers, ceux qui sont nés aux États-Unis. Oui, sauf qu'il y a deux échelles complètement différentes. Et on se donne le droit dans les graphiques d'utiliser deux échelles, une échelle à gauche et une échelle à droite. Mais on ne se donne pas le droit de jouer avec comme ça pour aligner les courbes, pour faire semblant qu'il y a une courbe qui est en train de dominer sur l'autre. Vous voyez ? Donc la courbe bleue utilise l'échelle de droite et la courbe rouge utilise celle de gauche. Je ne sais même pas si les données sont justes par ailleurs, mais la manipulation est vraiment flagrante ici. Donc on parlera de l'éducation dans le sixième cours, nous devons absolument apprendre à nos enfants à se méfier de ces usages inappropriés de la correspondance entre les nombres et l'espace. Voilà, alors ça c'est la fin du cours 3 bis, désolé pour avoir dépassé mon temps. Je voulais vous parler tout de même de la suite, c'est-à-dire comment on fait pour percevoir non seulement qu'il y a une échelle sur l'axe des X ou sur l'axe des Y, mais qu'il y a des tendances et des courbes. Donc ici, c'est très clair, on ne fait pas attention qu'aux axes des X et aux axes des Y, mais surtout à la distribution de ces données, et on perçoit très rapidement qu'elles montent et que l'espérance de vie augmente avec le revenu moyen des différents pays. Alors, on avait distingué au moins deux étapes fondamentales, c'est une très vaste distinction dans la perception des graphiques, la perception de la position des différents éléments et l'extraction des tendances. On parlera de la grammaire des graphiques, une sorte de grammaire des courbes, et puis ensuite seulement l'interprétation de ce que ça veut dire. Donc je vais maintenant me concentrer un tout petit peu sur cette étape perceptive. Comment on fait pour reconnaître la distribution des données? Comment notre cerveau fait-il pour comprendre ici que les données montent? D'accord? Alors que c'est plein de petits points qu'il faut arriver à percevoir comme un ensemble. Je vais parler beaucoup du travail d'une personne qui a été vraiment formidable au laboratoire, c'est Lorenzo Ciccione, je voudrais vraiment le remercier, je crois qu'il est ici, pour Lorenzo, il est là, parce que je dois beaucoup de ses diapositives à Lorenzo qui a fait sa thèse sur ce sujet. Et donc on a publié toute une série d'articles. Alors on a conçu une tâche nouvelle, psychophysique, qui consistait à évaluer comment les sujets font pour percevoir un graphe de points ici. On a réduit la chose absolument au minimum en mettant deux axes qui ne servent pratiquement à rien qu'à donner une sorte de cadre. Et puis le sujet voit un nuage de points Et il doit dire si ça monte ou si ça descend, si les données montent ou si elles descendent. Et le graphe est généré avec les hypothèses de ce qu'on appelle ordinary least squares, les moindres carrés ordinaires, c'est-à-dire que l'axe des x est fixé, les points sont d'ailleurs répartis également sur l'axe des x, et sur l'axe des y, on prend une droite et on rajoute du bruit, d'accord ? Et on rajoute du bruit gaussien, c'est l'hypothèse exacte dans laquelle on peut résoudre les équations de la régression linéaire traditionnelle. Alors, on a fait simplement varier les paramètres. Donc, vous voyez ici différents exemples d'écrans que pouvaient voir les sujets. On avait fait varier la pente de la droite, pouvait être plus ou moins pentu. On a fait varier ensuite le niveau de bruit gaussien qu'on rajoutait à ces points. Et puis, on a fait varier le nombre de points. D'accord. Donc, vous avez des cas où il y a 6 points seulement, et ça va de 6 à 18, 38 et 66. Alors l'idée ici, c'est quoi ? C'est d'essayer de voir si, de façon très implicite, très automatique, les sujets se comportent comme des bons statisticiens. Si vous aviez ce problème en statistique, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend ? Eh bien, vous feriez une régression linéaire, vous calculeriez un t-test, et si le t-test est positif, vous diriez ça monte, si le t-test est négatif, vous diriez ça descend. Il y a une manière très précise de résoudre ce problème en statistique. Et la question pour nous, c'était, est-ce que les sujets sont de bons statisticiens ? Est-ce qu'implicitement, ils sont capables de tenir compte du nombre de points, de la pente et du bruit pour combiner tout ça dans un jugement approprié. Et on va voir que c'est le cas. Les sujets se comportent vraiment comme le ferait un bon statisticien. Alors voilà, on présente ici les données en fonction de la pente de la courbe. Et évidemment, lorsque la pente est plutôt positive, les sujets répondent plutôt que ça croît. Et lorsque la pente est plutôt négative, les sujets répondent plutôt que ça décroît. Mais vous voyez que ce jugement qui est psychophysique, donc qui est traditionnellement avec une courbe sigmoïdale comme ça, eh bien, il dépend du niveau de bruit des graphiques. Et évidemment, lorsqu'il y a peu de bruit, le jugement est très précis, et donc la courbe est raide. Lorsqu'il y a beaucoup de bruit, le jugement est moins précis et la courbe est un petit peu plate, les sujets se trompent dans leur jugement. D'accord ? En fait, ils ne font pas que se tromper, parce que lorsqu'on génère un diagramme avec du bruit, c'est pas seulement la pente prescrite qui compte, mais c'est en fait la pente réelle qu'on appelle ici alpha chapeau, et la pente réelle, elle peut dévier de la pente prescrite en fonction du bruit, et les sujets sont assez bons à suivre la pente réelle du graphique. Donc ils suivent de façon assez précise la totalité de la courbe plus le bruit. Et ils tiennent compte aussi du nombre de points. Ici, le nombre de points varie de 6 à 66. Bon, c'est clair que plus il y a de points, plus c'est facile de juger la tendance. Et ce qu'on voit ici, plus la courbe est raide, plus les sujets jugent correctement la tendance croissante ou décroissante du nombre de points. D'accord ? Et on voit un effet essentiellement linéaire de cette variable ici, qui était essentiellement quadratique. Vous voyez qu'on a fait varier le nombre de points en n au carré plus 2. Je pourrais y revenir, mais c'est parce qu'on anticipait sur le fait que les sujets utilisent la racine carrée de n-2 comme la variable clé. C'est le cas dans l'équation de la régression linéaire traditionnelle. Alors, tout ceci pour vous dire que si on réaffiche toutes ces données avec une seule variable sur l'axe des x, le test T que ferait un statisticien pour juger si la courbe monte ou descend, eh bien, toutes les données s'alignent à la perfection. C'est rare en psychophysique d'avoir des données aussi précises, hein. Vraiment, le jugement des sujets dépend du t-test qu'un statisticien ferait pour juger si la courbe monte ou descend. Quel que soit le nombre de points, quel que soit le niveau de bruit, la pente, etc., tout ça est regroupé dans le t-test. Même chose pour les temps de réaction des sujets, donc là je passe peut-être un peu plus rapidement, mais avec le temps de réaction varie avec le niveau de bruit, et plus il y a de bruit, plus les temps de réaction sont lents. Le temps de réaction varie avec le nombre de points, et moins il y a de points, plus les temps de réaction sont lents et imprécis ici en rouge. Et tout ceci est résumé par une courbe en fonction du t-test à nouveau. Et alors, la courbe qui est modélisée ici, elle provient de l'étape précédente. On peut faire passer une courbe sigmoïdale ici, vous voyez, à travers ces points. Et avec la théorie dont j'ai parlé dans des cours précédents de l'accumulation d'évidence, on sait comment passer de la courbe des taux d'erreur à la courbe du temps de réaction. Et il n'y a pas de paramètre libre, là, presque pas. Il y a la hauteur de la courbe, mais la forme de la courbe n'est plus un paramètre libre. Elle est directement dérivée de la théorie de la décision fondée sur l'accumulation statistique d'évidence. Et vous voyez que c'est encore un très bon fit, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes lent lorsque c'est difficile. Qu'est-ce qui détermine si c'est difficile ? C'est la distance entre le graphe que vous voyez et un t-test de zéro. C'est à quel point le t-test dévie de zéro, d'accord. Comme un statisticien, vous prenez plus de temps à décider si ça monte ou si ça descend quand l'évidence est moins forte. Et vous accumulez l'évidence en fonction du temps. Voilà. Il y a un point important, c'est que vous voyez que ça n'est pas le cas qu'on prend d'autant plus de temps, plus il y a de points. Hein. Ça, c'est un aspect important de ces données. On aurait pu penser que plus il y a de points sur un écran, plus il faut de temps pour faire attention à chacun de ces points avant d'intégrer toute cette évidence. Mais on avait dit au contraire que l'intérêt des graphiques, c'est de permettre un traitement parallèle des données. Eh bien, on le voit ici directement, il y a un traitement parallèle qui fait que, en fait, plus il y a de points, plus c'est facile. Toutes choses égales par ailleurs, ça n'est pas plus difficile de traiter un graphe avec beaucoup de points, ça peut devenir plus facile lorsque l'évidence statistique devient plus forte. Donc, ça n'est pas un traitement sériel, c'est un traitement parallèle des graphiques. Alors, cette mesure, c'est intéressant parce qu'on s'est dit peut-être que là, on a une mesure de ce qu'on pourrait appeler la graphicacie. Comme on parle de littératie ou de numératie, il y a la graphicacie, le sens des graphiques, l'éducation graphique, est-ce qu'on est bon pour percevoir des graphiques. Dans le domaine de la littératie et de la numératie, on a d'excellents tests psychophysiques. Par exemple, votre capacité de distinguer dans une chaîne de lettres des lettres assez proches est un assez bon indicateur, corrèle avec votre capacité de lecture. Dans le domaine des nombres, votre capacité de juger à quel point deux nuages de points diffèrent sur le plan du nombre, ou bien l'un est plus grand et l'autre est plus petit, cette psychophysique de la comparaison des nuages de points prédit, dans une certaine mesure, vos capacités de calcul et même votre dyscalculie. Les enfants dyscalculiques qui ont des troubles de la représentation des nombres ont des troubles dans un test psychophysique extrêmement simple qui consiste à voir lequel de deux nuages de points est le plus grand en nombre. Donc on s'est dit qu'on avait peut-être ici un test similaire pour la graphicacie, la capacité de percevoir de façon précise ce qui se passe dans un graphe. Alors Lorenzo a mis en ligne un test, c'était à l'époque encore de l'épidémie de Covid, et les gens allaient beaucoup sur Internet, c'était facile d'avoir un test. On a eu 3943 réponses donc de gens qui ont passé notre test, qui consistait simplement à voir des graphiques et à cliquer pour dire c'est plus grand, ou c'est, pardon, ça monte ou ça descend. D'accord. Et voilà donc les résultats moyens de ce test sur Internet avec 3943 sujets adultes. Vous voyez que les données deviennent extraordinairement stables. C'est extraordinaire. Avoir des données aussi régulières sur un jugement de haut niveau psychophysique comme ça, c'est très rare. Aussi bien sur le plan des temps de réaction que sur le plan des taux d'erreur, le modèle d'accumulation d'évidence, la fonction sigmoïdale, la dépendance du t-test ici du graphe sont reproduits de façon extrêmement puissante. Mais du coup, on a ces différents graphes avec différentes valeurs du t-test et on peut essayer d'ajuster ce modèle pour chacun des sujets. Et c'est ce qui a été fait ici par Lorenzo. Donc vous avez, chaque sujet a fait un certain nombre de réponses qui peuvent être gérées vers le bas ou vers le haut. On peut moyenner ces réponses en fonction des différents graphes ou bien on peut utiliser les points individuels. Ici, vous voyez des points individuels de données. Et on va fitter une courbe sigmoïdale et on va obtenir la pente qui est celle de ce sujet particulier. D'accord ? Tous les sujets n'ont pas la même pente, tous les sujets n'ont pas la même capacité, la même finesse de discrimination d'un graphe qui monte et d'un graphe qui descend. Alors cette régression marchait chez 98,2% des participants, ça veut dire qu'il y a un petit peu de bruit dans les données, mais pas beaucoup. Hein. La plupart des participants ont des données qui sont compatibles avec ce modèle de décision. Et ensuite, on regarde la pente, qu'on appelle l'index de graphicacie, la pente de la courbe qui vous dit... Pour un graphe donné, est-ce qu'une personne est capable de détecter finement si ça monte ou si ça descend? Quelle est la précision de sa capacité de réaliser cette détection? Donc voilà la distribution à travers les sujets. Et cette distribution, ce n'est pas du bruit. Parce qu'on a pu montrer que si on testait deux fois les mêmes sujets, on trouve deux fois la même pente. En tout cas, les pentes sont corrélées. Il y a toujours du bruit dans les données, bien sûr. Hein. Mais on arrive à mesurer un paramètre qui est propre au sujet, qui est sa précision dans le jugement des graphiques. D'accord. Et voilà ensuite ce qu'on peut faire avec cet index de graphicacie. on peut regarder comment il varie en fonction du niveau d'éducation des sujets. Et on a trouvé que lorsqu'on demande au sujet quel est votre niveau d'éducation en statistique, il y a une corrélation massive, surtout en moyenne ici, avec notre indice de graphicacy. D'accord. Donc les sujets qui déclarent être bons en statistique ont une précision plus grande dans ce test strictement visuel, psychophysique. Est-ce que ça monte ou est-ce qu'un nuage de points monte ou est-ce qu'un nuage de points descend ? D'accord. Et on le voit ici pour différents domaines de compétences des gens. On leur a demandé, pour ceux qui sont allés à l'université, quel était le domaine dans lequel ils ont travaillé. Et vous voyez que alors les scientifiques, ça veut dire physique et mathématiques, sont les plus hauts. Les gens qui ont travaillé dans les humanités sont les plus bas, je suis désolé de le dire ici. Et on a les points entre les deux. Bon, il est important de dire que c'est une corrélation. C'est pas forcément une causalité. La causalité est difficile à déterminer ici. Mais donc il y a peut-être des gens qui sont plus attirés par les graphiques dès le départ et qui sont attirés par la science, ou bien le fait de s'entraîner en science avec beaucoup de graphiques augmente la précision avec laquelle on interprète les graphiques. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'est pas égal dans ce domaine, au moins à l'âge adulte. On a changé notre capacité de percevoir les graphiques et on est capable de le mesurer dans un petit test qui dure 5 à 10 minutes. On est capable de mesurer assez finement où en est une personne donnée dans le domaine des graphiques. Alors, c'est une idée générale qu'on trouve aussi dans Koslin, dans ce fameux livre de Koslin de 2006, que, en fait, lorsqu'on est expert en graphique, eh bien, on a acquis des sortes de patrons des capacités d'analyser des graphiques. Et Koslin va un petit peu plus loin que cette simple perception de la tendance linéaire, montante ou descendante. Mais Koslin parle aussi de patrons de réponse qui peuvent être, par exemple, des interactions. Et je pense que c'est une idée intéressante, mais je n'ai pas vu non plus qu'elle ait été testée très finement comme on a pu le faire pour les tendances linéaires, croissantes ou décroissantes. Mais par exemple, lorsque vous travaillez en psychologie, et je pense en sciences en général, il est vrai que ce patron de réponse qui forme une croix ici, qui indique une interaction, eh bien, nous, les scientifiques, on est devenus extrêmement attentifs à ce type de situation. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens ici qui ont travaillé notamment en psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire, une croix comme ça dans un graphique ? Ça veut dire qu'il y a un facteur sur l'axe des X. Les données sont arbitraires ici, sont inventées. Mais il y a un facteur sur l'axe des X qui est, je ne sais pas, là, c'est l'été et l'hiver. Il y a un autre facteur qui distingue les deux courbes et la croix indique qu'il y a une interaction. Et toute personne entraînée qui voit cette croix dit « Ah, c'est une interaction ». Qu'est-ce que ça veut dire, une interaction ? Ça veut dire que l'effet d'un des facteurs n'est pas le même selon le niveau de l'autre facteur. Ça veut dire que l'effet de l'été et de l'hiver n'est pas le même en Italie et au Japon. D'accord ? Et même, il s'inverse. Quand il y a la croix, « crossover effect », ça veut dire qu'il y a un effet qui s'inverse en fonction du niveau de l'autre variable. Donc, effectivement, devenir bon en graphique, j'en parlerai encore la semaine prochaine lorsque je parlerai de la perception des exponentielles, eh bien, c'est s'habituer à un certain nombre de patrons graphiques. Il y a une compétence purement visuelle dans la perception des graphiques qui est devenir sensible à l'organisation visuelle des données et devenir tellement sensible qu'on est capable de détecter, un peu comme un statisticien, l'évolution d'un t-test. Alors, je vous laisse regarder ce graphique. Je ne vous ai pas dit ce que c'était les Graph Crimes. C'est un site internet sur lequel vous trouvez des crimes graphiques. Voilà. Alors, là, je vous laisse réfléchir. Mais le gars, je ne sais pas s'il fait vraiment volontairement ou pas. Je crois que c'est plutôt une blague. Mais il dit, c'est quand même terrible. Le nombre de prix Nobel est en train de s'effondrer à travers les années. Est-ce que nous sommes, le titre, hein, c'est « Est-ce qu'on devient plus bête ?» Il y a cette idée que le QI baisse, qui n'est pas vrai. Voilà. Est-ce qu'on devient plus bête ? Le nombre de prix Nobel a l'air de s'effondrer totalement dans cette courbe ici. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe, là ? J'espère que oui. C'est parce qu'ils ont mis l'année de naissance des prix Nobel. Alors évidemment, si on est né en 75, on a moins de chances d'avoir le prix Nobel, parce qu'il faut quand même avoir un certain âge. Enfin, ce n'est pas impossible de l'avoir, mais enfin, il faut quand même avoir un certain âge pour avoir le prix Nobel. Voilà. Mais là, toutes nos attentes sont que la courbe doit croître. Et on détecte que cette courbe ne croit pas qu'elle s'écroule. Voilà. Donc, quelque part, on viole nos attentes, qui est que, en fonction du temps, la courbe doit croître. Il y a de plus en plus de prix Nobel, ou au moins il y en a autant par année, on le sait, ça. Et puis là, ça a l'air d'être violé. Bon, c'est une blague un petit peu. Hein. Mais ça veut dire que vous êtes quand même très sensible, vous voyez, à la perception des tendances. Et vous attendiez à une tendance qui croît. Alors, je reviens à mon idée de recyclage neuronal. Si on a raison, donc on vient de voir un test où on regarde un nuage de points comme ça, et de façon remarquable, les personnes sont capables de dire ça monte ou ça descend en mettant en somme tous ces points, en ayant des performances meilleures plus il y a de points, alors qu'on aurait pu penser que ce serait plus difficile quand il y a beaucoup de points. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait l'hypothèse lors du deuxième cours que, comme la capacité de lire ou la capacité de calculer, la perception des graphiques recycle des compétences préexistantes de notre cerveau. Mais qu'est-ce qui est recyclé ici qui nous permet de percevoir un nuage de points? Eh bien, en y réfléchissant, on a fait une hypothèse très simple avec Lorenzo Ciccione, c'est que nous recyclons la capacité de percevoir l'orientation des objets. Lorsque vous avez une fourchette et un couteau devant vous dans votre assiette, vous percevez leur orientation, et ça vous permet de les attraper. Et quel est le calcul qui est fait par le système visuel ici? Eh bien, c'est le calcul de l'axe principal des objets. Et c'est déjà discuté tout à fait indépendamment de la perception des graphiques. Il y a dans notre système visuel un calcul de l'axe principal des objets. Alors l'idée, c'est que nous attrapons des objets du monde extérieur depuis très tôt dans l'enfance et sans doute dans l'évolution aussi, nous aurions recyclé cette capacité de percevoir l'axe principal des objets et nous l'appliquerions même dans un contexte où l'objet c'est un nuage de points. Nous serions capables de percevoir la tendance de ce nuage de points exactement comme nous percevons l'axe principal d'une fourchette ou d'un couteau. D'accord ? Alors ça fait plusieurs prédictions et on va les regarder dans les cours qui viennent ici. On va voir jusqu'où on arrive à aller. D'abord, première prédiction, cette capacité de percevoir la tendance d'un graphique, on a vu qu'elle variait avec l'éducation, mais elle devrait être présente très tôt, avant même qu'on soit éduqué, chez le très jeune enfant, et cette capacité d'attraper des objets qui apparaît précocement, hein, et peut-être aussi chez des primates non humains. Il n'y a rien de particulier à l'espèce humaine dans la capacité de percevoir l'orientation d'un objet. Ça, c'est le premier point. Deuxième prédiction, la perception devrait être légèrement biaisée. Je vais vous l'expliquer rapidement, hein, mais dans quelques diapositives. Mais l'axe principal des objets, ça n'est pas la droite de régression. C'est la direction de cette ellipse, et ça n'est pas la droite de régression. Et on va voir que, effectivement, c'est ce qui se passe lorsqu'on perçoit des graphiques. Puis, troisième prédiction, la perception des graphiques au niveau cérébral devrait activer et réactiver, recycler des régions impliquées dans la perception de l'orientation des objets. Donc si on regarde au niveau du cerveau, on devrait trouver un recouvrement entre la perception des graphiques et la perception de l'orientation des objets. Alors avec Lorenzo, dans le cadre de sa thèse, on a testé chacune de ses prédictions. Première prédiction, la perception de la tendance centrale des graphiques n'est pas seulement apprise à l'école, mais elle doit être présente très tôt dans l'enfance. Percevoir le graphique, c'est la partie facile qui doit être présente très tôt parce qu'on recycle des capacités perceptives. Alors, avec Lorenzo, on a été testé cette idée dans plusieurs situations grâce à Serge Caparros, que vous voyez apparaître ici en avant-dernier auteur dans cet article. On a pu aller tester des Himba en Namibie qui n'ont pas la chance de recevoir une éducation formelle, hein, qui ont évidemment leur éducation dans leur culture, enfin qui n'ont pas d'éducation particulière aux graphes mathématiques, certainement pas. Et donc on leur a fait passer notre tâche qui avait été passée par les 3943 personnes sur Internet, et vous voyez qu'ils savent très bien le faire. Ils comprennent ce que c'est qu'un graphique, ils savent dire si ça monte ou si ça descend, et leur performance dépend étroitement, là encore, du t-test, qui est la chose optimale à faire pour essayer de déterminer la direction des points sur ce graphique. Que ce soit d'ailleurs des jeunes adolescents, des adultes qui ne sont jamais allés à l'école, certains adultes ont eu un peu d'éducation, vous voyez qu'on retrouve des performances qui sont déterminées par le t-test. Et puis on a fait la même chose avec des jeunes enfants. Alors, on ne l'a pas fait extrêmement jeune, et ça demande encore à être fait. Ce n'est pas si facile à faire pour les enfants. Hein. Mais enfin, vous voyez qu'avec du bruit, il y a quand même une dépendance du t-test. Du moment qu'on ait des t-tests qui sont assez forts, donc des graphiques qui sont assez clairement penchés vers le haut ou vers le bas, les enfants sont capables de faire ce test et agissent en partie comme des statisticiens. Donc ça, c'est la première prédiction. Mais si on a raison, ça devrait être aussi vrai chez des primates non humains. C'est un peu bizarre, mais nous sommes allés présenter des graphiques de données à des primates non humains. Voilà. sur la base de cette prédiction. Alors, on a la chance de collaborer depuis plusieurs années avec Nicolas Clédière, Joël Fagot et leur équipe, qui ont ce centre, je vous en ai déjà parlé, extraordinaire, pour tester des babouins. Les babouins sont en semi-liberté, ils font ce qu'ils veulent toute la journée, mais à n'importe quel moment, ils peuvent rentrer dans l'une de ces boîtes ici, et à l'intérieur, ils vont trouver un écran d'ordinateur tactile. L'ordinateur va les reconnaître, et l'ordinateur va leur proposer des jeux vidéo, si on peut dire, des essais d'une tâche cognitive, et ils vont être récompensés pour leur performance dans ces tâches cognitives. Et c'est vraiment extraordinaire comme situation, parce que chaque animal peut aller quand il veut. Alors les animaux qui sont hauts dans la hiérarchie dominent sur les autres, mais les autres peuvent aller à 2h du matin, et vous avez des animaux qui vont jouer à 2h du matin, un petit peu comme nous. À la fin de cette belle organisation, vous avez des données qui s'accumulent presque automatiquement et avec des taux de réussite des singes, en tout cas des nombres d'essais qui sont passés par les singes qui sont vraiment énormes. On peut avoir 500 ou 1000 essais par jour de ces animaux, donc avoir une très bonne caractérisation de leur capacité comportementale. Alors on s'est servi de cette situation en collaboration donc avec Nicolas Clédière et Joël Fagot pour demander aux singes s'ils étaient capables de donner la direction d'un graphique. On a mis la situation suivante en place. On leur a associé deux symboles, l'un pour croissant et l'autre pour décroissant. D'accord ? Donc, ils voyaient d'abord un graphique et ensuite, les symboles apparaissaient, ils devaient cliquer sur celui qui correspond à croissant ou à décroissant. Ils devaient apprendre cette correspondance symbolique. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit toujours le bouton droit qui soit croissant et le bouton gauche qui soit pour décroissant, parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu se servir de l'alignement du graphe avec le bouton pour aller toujours du côté le plus proche de certains points, avoir des stratégies comme ça. Ici, c'est parfaitement symbolique. Il y a deux symboles arbitraires, un symbole pour dire croissant, un symbole pour dire décroissant. Leur position sur l'écran change, donc on ne peut pas se servir de la position, il faut se servir de l'association symbolique, un petit peu comme nous, arbitraire, avec un mot qui dit croissant et un mot qui dit décroissant. Alors on a commencé par entraîner les animaux avec des lignes droites, toujours dans cette idée de recyclage neuronal, ils doivent être capables de le faire avec des lignes droites, et s'ils l'ont appris avec des lignes droites, sont-ils capables de le généraliser à des graphes dans lesquels il y a du bruit, un nuage de points. Donc on a donné des graphes sans bruit, une ligne formée de points, et des graphes avec plus ou moins de niveaux de bruit autour d'une pente qui peut être croissante ou décroissante. On a fait une première expérience avec les mêmes stimuli qu'on avait utilisés chez les jeunes enfants, et ça s'est avéré un peu trop difficile pour les animaux, je vais vous le montrer, et donc on est passé à une deuxième expérience où on a donné des pentes un petit peu plus élevées pour que ce soit moins difficile pour les animaux. Voilà. Mais il y avait quand même donc toute cette variété de stimuli, la même qu'on a utilisée jusqu'ici. Alors voilà la performance des animaux en fonction de la pente prescrite du graphe, d'abord pour des lignes droites. Vous voyez que au départ, ici les différentes couleurs représentent le temps dans l'expérience, les déciles du nombre d'essais que les animaux ont eu pour atteindre un critère, et donc vous voyez qu'au départ les animaux sont plats, ils n'arrivent pas à répondre croissant ou décroissant quand la pente est vers le haut ou quand la pente est vers le bas, mais progressivement cette courbe commence à s'infléchir et on voit apparaître les mêmes genres de résultats que chez les humains, une capacité de dire ça croît ou ça décroît. Catégoriser, vous vous souvenez, il y a deux choses que l'animal doit apprendre ici, catégoriser les droites comme montantes ou descendantes et associer le symbole correspondant, ce qui n'est pas le plus facile à apprendre pour un animal. Donc ces animaux ont appris le symbole qui correspond à une droite croissante ou à une droite décroissante. Et à ce moment-là, on les passe dans le test avec des graphiques bruités. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de généralisation. Ils ont vraiment beaucoup de mal au départ, c'est un tout petit peu au-dessus du hasard, et puis quand même assez vite, ça monte au-dessus du hasard. Par contre, quand on les a passés dans le deuxième test avec des pentes plus élevées, là, on a obtenu des performances assez nettement au-dessus du hasard. Il y a toujours du bruit résiduel, il y en avait aussi chez les enfants, donc il y a une partie d'essais qui sont perdus, où l'animal a l'air de répondre au hasard, et ne parvient pas, même pour des pentes assez élevées. C'est le cas même pour des lignes droites ici. Donc l'aspect symbolique perd sans doute l'animal dans un certain nombre d'essais où il choisit le symbole au hasard. Mais c'est quand même beaucoup mieux que le hasard, le fait que cette courbe et cette forme ici indiquent que les animaux répondent bien mieux que le hasard. Et Une fois qu'on a cette performance au-dessus du niveau du hasard, on peut l'afficher comme auparavant en fonction du t-test qui caractérise le graphe. Et alors en haut, vous voyez les premières pentes qu'on a utilisées. Vous voyez que la performance est vraiment un tout petit peu au-dessus du hasard ici, alors que pour les enfants de 6 ans ou les IMBA ou les adultes qu'on avait pu tester sur Internet, eh bien, vous voyez que la performance est quand même bien meilleure. Mais avec un peu d'entraînement, les animaux se comportent comme les enfants, ça s'approche le plus en plus des enfants. Voilà tous les essais de la deuxième partie avec des pentes un peu élevées. La dernière partie de ces essais, vous voyez que les animaux continuent d'être de meilleur en meilleur. Ici, on a exclu 4 babouins qui répondaient au hasard. S'ils répondent au hasard, ils ont peut-être mal compris la tâche. Ceux qui ne répondent pas au hasard ont des pentes assez élevées et vous avez des stars. Ici, c'est une babouin qui s'appelle Violette, qui dans toutes les tâches réussit extraordinairement bien et fait essentiellement aussi bien qu'un être humain. Donc ça prouve que c'est possible, c'est accessible à ces animaux. Voilà. Et là vous voyez la dépendance remarquable en fonction du t-test, presque pour tous les points. La raison pour laquelle c'est pas parfait, c'est qu'il y a ce groupe de points rouges ici. Alors regardons deux secondes ce que c'est que ce groupe de points rouges. Ce sont les points, ce sont les nuages de points dans lesquels il n'y a que 6 points. Si je reviens en arrière, pour vous donner un exemple, c'est ce graphe-là, voilà, ce genre de graphe-là. Alors, il semblerait que les animaux, et nous aussi sans doute, nous avons des difficultés particulières à dire que ça, c'est un objet. La tâche demande de dire que c'est un seul et même objet, n'est-ce pas ? C'est 6 points. Et il faut juger son orientation. Ça, évidemment, c'est une source de difficulté supplémentaire, et ça a l'air d'être une source de difficulté supplémentaire pour les animaux en particulier. Donc, vous voyez ici, en fonction de la pente de la courbe, mais aussi en fonction du nombre de points présentés, il y a toujours une belle dépendance de la pente de la courbe sur les réponses des animaux, sauf quand il y a 6 points sur l'écran. S'il y a 6 points sur l'écran, ils ont du mal à dire que c'est un seul et même graphe. Ils ne font pas complètement au hasard non plus, mais ils ont beaucoup plus de mal. C'est un résultat assez classique, nous dit Joël Fagot, que les animaux ont tendance à traiter les objets individuels et à ne pas voir la scène d'ensemble. C'est quelque chose de difficile de voir la scène d'ensemble pour ces animaux. Alors voilà aussi une idée de la variabilité entre animaux qui est quand même très importante. On les a triés ici en fonction de leur performance, donc de leur sensibilité, ce fameux indice de graphicacy. Alors Violette a un très bon indice de graphicacy, mais vous voyez que si on se déplace ici, les animaux font de moins en moins bien. Si on essaie de comprendre ce qui se passe, en fait, les animaux comprennent la tâche, donc toujours il y a cette pente, mais ils ont aussi des biais supplémentaires. Et peut-être que l'éducation au graphique, c'est aussi arriver à se débarrasser de ces biais. Beaucoup d'animaux ont des performances qui varient systématiquement en fonction du nombre de points, voyez. Donc ils sont biaisés à choisir un symbole quand il y a peu de points et un autre symbole quand il y a beaucoup de points. C'est le sens du nombre, dont on a souvent parlé, qui ici joue un rôle alors qu'il ne devrait pas. Les animaux devraient complètement négliger le nombre de points, mais ne peuvent pas s'empêcher de cliquer plutôt sur un symbole quand il y a peu de nombre et un autre symbole quand il y a beaucoup de nombre. Alors, suivant les animaux, c'est complètement arbitraire. Ça peut être l'un des symboles ou l'autre symbole qui est choisi, mais il y a cet effet systématique du nombre. Donc, ces courbes sont souvent décalées en fonction du nombre de points parce qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans le jugement de l'animal. Mais l'un de ces paramètres, c'est le t-test, qui détermine le jugement des humains également. Donc quelque part, il y a un précurseur de la perception des graphes chez le babouin ici. Et finalement, juste pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses ici, on a fini par comprendre pourquoi certains animaux faisaient beaucoup mieux que d'autres. Et quelque part, c'est aussi de notre faute, puisque je vous ai dit que les animaux devaient associer croissant avec un symbole et décroissant avec un autre symbole qui avait ces formes ici un peu étranges. On a choisi des formes qui n'étaient pas carrées, qui n'étaient pas non plus graphiques au sens où ça représentait une droite ou quelque chose comme ça. Il fallait que ce soit le plus arbitraire possible. Et vous voyez que les babouins qui ont réussi ont eu les paires de formes ici à gauche, donc chaque paire correspond à un animal, et les babouins qui n'ont pas bien réussi ont eu les paires de formes qui étaient ici à droite. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait rendu la chose trop difficile parce que beaucoup de ces formes se ressemblent. Celles-ci se ressemblent, celles-ci se ressemblent, celles-ci se ressemblent aussi dans une certaine mesure. Et si on mesure la ressemblance entre les formes qu'on leur a données, eh bien, les singes qui ont moins bien réussi sont ceux qui ont eu les formes qui se ressemblaient le plus. D'accord ? Donc, si on devait refaire cette expérience, c'est coûteux, ça prend des semaines, mais si on devait refaire cette expérience, on choisirait des paires de symboles qui sont plus différentes les unes des autres pour tous les animaux, et on aurait sans doute de meilleures performances. Mais une partie de la difficulté, c'était l'association symbolique et pas seulement la perception de la pente du graphe. Si on oublie toutes ces nuances, ce qui reste, c'est une capacité animale non négligeable, parallèle, quel que soit le nombre de points, sauf pour les tout petits, c'est plus facile pour les grands nombres, une capacité de percevoir l'orientation d'un nuage de points, ce qui est compatible avec cette idée de recyclage neuronal, et compatible aussi avec cette idée de perception de l'ensemble, d'un ensemble de points, ce qu'on appelle ensemble perception. Alors, on peut considérer ce qu'on a fait là comme une sorte de variante de cette idée de perception de l'ensemble. Vous pouvez trouver cet article de revue de Arieli ici, collaborateur. L'idée, c'est quoi? C'est une idée assez étonnante. Lorsqu'on vous présente un nuage d'objets, vous êtes capable de faire des statistiques sur ce nuage d'objets. Et par exemple, vous êtes capable de dire quelle est la taille moyenne de ces points, même en un flash. Donc, il y a une capacité de moyennage, si on peut dire, de différentes propriétés de l'image. Et on n'a pas besoin de regarder sériellement toutes ces données pour savoir quelle est à peu près la taille moyenne. Ça marche pour la taille, ça marche pour l'orientation, je suis sûr que vous arriverez à dire l'orientation moyenne de ces barres, le mouvement moyen des points, la vitesse moyenne, la position moyenne, vous seriez capable de placer un point ici à peu près au centre du nuage, la texture moyenne, ça c'est un peu plus étrange, ou l'ombre moyenne, et vous êtes capable parfois d'extraire des choses très abstraites comme le visage moyen. On a déjà parlé de la perception des visages. Chaque visage est un vecteur neuronal dans le cerveau, donc on peut faire la moyenne de vecteurs. Et ça a du sens de dire qu'il y a un visage moyen. Et les sujets sont capables, dans une certaine mesure, de dire le visage moyen ou l'émotion moyenne dans un visage. Donc tout ceci montre qu'il y a une capacité statistique dans notre cerveau. On a souvent parlé du cerveau statisticien. Et finalement, la perception des tendances vers le haut ou vers le bas d'un graphe, c'est jamais qu'un nouvel avatar de ce cerveau statisticien qui est capable d'extraire pas seulement la moyenne, ici toute cette capacité de représentation qu'on appelle la perception des ensembles s'est focalisée sur les moyennes, mais en fait les sujets ont la moyenne, l'écart-type, la dispersion des données, et ils ont aussi les corrélations entre données, des statistiques d'ordre supérieur. Et on le voit même quand les dimensions ne sont pas forcément spatiales. Par exemple, ici, je pense que vous pouvez percevoir que l'orientation de la ligne varie avec la position spatiale. Ça tourne comme ça, d'accord? Vous êtes en train de faire une corrélation entre l'orientation de la ligne, qui n'est pas une variable spatiale, et la position sur l'axe des X. Donc, notre cerveau a des capacités de mise en relation de plusieurs variables, est capable de faire des statistiques de moyenne, d'écart-type et même de corrélation entre deux variables. Et nous exploitons cette capacité-là dans le domaine des graphiques lorsque nous présentons des points qui représentent finalement des corrélations, des régressions. Les sujets sont très sensibles à cette corrélation. Alors, j'allais m'arrêter là, mais comme je vois qu'il reste que quelques minutes, je vais avancer un tout petit peu dans la suite. Et on reviendra à ces conclusions dans un instant, pour vous parler de cette deuxième prédiction qui est un petit peu subtile, mais qui se trouve être magnifiquement vérifiée. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'axe principal? Lorsque vous voyez une fourchette, vous percevez l'axe principal, vous avez placé votre main pour l'attraper convenablement. Est-ce que c'est ça qui est recyclé pour la perception des graphiques? Eh bien, si c'est le cas, c'est pas la droite de régression habituelle qu'on doit utiliser quand on perçoit un graphe. Et je vous explique tout de suite comment ça marche. Lorsque vous calculez l'axe principal de la fourchette, ici, vous calculez la droite telle que la position, la distance entre chaque point de la fourchette et l'axe, la somme de toutes ces distances au carré soit minimale. D'accord ? Vous calculez la distance des points et vous calculez la somme des distances au carré et vous minimisez cette somme des distances. Mais ça n'est pas la régression habituelle. La régression habituelle consiste à minimiser la distance sur l'axe vertical, ici. Donc ordinary least square, les moindres carrés habituels, ça fait l'hypothèse que sur l'axe des x, on a une variable qui n'est pas bruitée et sur l'axe des y, on a une variable qui est une fonction de l'axe des x plus du bruit. Le bruit n'est que sur l'axe des y et on va essayer de minimiser les moindres carrés, la somme des carrés de ces bruits. D'accord ? Mais l'axe principal, c'est pas ça. L'axe principal, c'est minimiser la distance du point à la ligne de façon perpendiculaire ici, la distance directe à la ligne, si vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle en statistique, un des noms de cette chose, c'est la régression de Deming. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas la même droite. Ce n'est pas très facile à comprendre, et quand on découvre la régression pour la première fois, on découvre par exemple, et moi ça, au départ je ne comprenais pas, la régression d'une variable x en fonction de Y et la régression d'une variable Y en fonction de X, ça ne donne pas la même droite. Je pense que beaucoup d'entre vous sont conscients de ce fait ici, mais c'est pas facile. Ça ne donne pas la même droite, parce que s'il y avait une régression de 0, la droite serait plate sur les deux axes. Et en fait, seule la régression de Deming donne le même axe qu'on fasse la régression de X en Y ou de Y en X, c'est la même chose. C'est la distance des points à la droite qui compte. Bon, désolé pour ce petit passage statistique ici, mais ça permet de tester qu'est-ce qui se passe réellement chez les humains. Est-ce qu'ils font l'un ou est-ce qu'ils font l'autre? Et ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait avec Lorenzo, c'est qu'on a généré les données suivant les hypothèses classiques des moindres carrés. On a généré les données avec juste du bruit sur l'axe des Y. Donc si les sujets étaient des bons statisticiens, ils devraient appliquer la droite de régression traditionnelle et pas celle de l'axe principal, pas celle de Deming. Et alors pour le savoir, il ne suffit pas de demander si ça monte ou si ça descend, parce que là la réponse est la même, mais il faut demander quelle est la pente de la droite. Et donc on a fait une nouvelle version de la tâche, on présente un graphe et on demande au sujet quelle est la pente de la droite. Et voilà le résultat. La pente rapportée par les sujets en fonction de la pente prescrite par notre graphe, et vous voyez que ça n'est pas une seule et même droite, ça varie suivant le niveau de bruit et suivant le nombre de points qui est présenté au sujet, et les prédictions des moindres carrés, c'est que ça ne devrait absolument pas varier, les prédictions de la droite distance directe, la prédiction de la régression de Deming, l'axe principal du graphe, ça doit varier, et ça varie exactement comme les données qu'on a ici chez les sujets. D'accord. Donc, les sujets ne se comportent plus ici comme des statisticiens idéaux, ou plutôt ils font une statistique légèrement différente de celles qu'on fait d'habitude. Ils ne font pas la régression traditionnelle avec les moindres carrés, ils font une régression fondée sur la distance directe, en X comme en Y, d'un point à la droite, et ils minimisent toutes ces distances. On l'a revu dans une autre tâche, et je vous en parlerai la semaine prochaine. Si je vous demande d'ajuster un point, ici c'est une autre manière de mesurer la pente de la droite, mais au lieu de demander d'ajuster une pente, on demande juste d'ajuster un point pour dire ce qui va se placer le plus possible près de la droite, on retrouve exactement ce phénomène ici. Donc, vous voyez que les sujets font une computation très particulière, ils font la computation qu'il faudrait faire si jamais on essaye de calculer l'axe principal du nuage de points, la direction de l'ellipse qui est formée par le nuage de points. Ils ne calculent pas la régression des moindres carrés, qui serait une pente plus basse. Ils montent cette pente pour tenir compte de la variabilité sur l'axe des X comme sur l'axe des Y, et ils calculent finalement l'ellipse générale. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là et revenir un tout petit peu en arrière dans mes conclusions. Peut-être d'ailleurs vous illustrer ça d'une manière la plus concrète possible. On l'a vu un moment. Hein. C'est un petit peu loin, pardon. Voilà. Donc, ce que font les sujets, ça n'est pas la droite rouge qui serait la droite de régression, mais c'est l'axe principal de l'ellipse qui serait celle qui entoure le mieux les points. Voilà. Donc c'est l'axe principal de l'objet et pas la droite de régression traditionnelle. Mais sinon, il se comporte de façon extrêmement adéquate par rapport à cette tâche. Et donc je vais reprendre ma diapo de conclusion. Les sujets sont excellents pour extraire la tendance centrale d'un graphe. Ils savent dire si ça monte ou si ça descend. La semaine prochaine, on verra qu'ils sont capables également de rejeter ce qu'on appelle des outliers, c'est-à-dire des points de données qui sont anormaux et qui ne font pas partie de la courbe. Ils ont un algorithme très précis pour détecter ça. Cette capacité dépend de l'éducation, mais elle est aussi présente de façon intuitive chez les jeunes enfants et même chez les animaux non humains, chez les babouins. Donc il y a quelque chose de très ancien là encore dans l'évolution, on recycle une capacité perceptive présente dans l'évolution. Et les sujets qu'on calcule l'axe principal, j'y reviendrai la semaine prochaine parce qu'il y a encore d'autres données, hein, mais pas les moindres carrés traditionnels. On verra qu'ils sont influencés par le placement des données par rapport aux axes et que toutes ces données peuvent s'expliquer par le recyclage neuronal, par l'idée que ceci, c'est finalement un objet. On apprend à traiter tous ces points comme un seul objet. C'est ça qu'on apprend. C'est dur pour les babouins, notamment quand il y en a peu. C'est dur pour nous aussi, sans doute. Mais il y a un moment où on arrive à dire tout ça, c'est un objet. Ce sont des données, un jeu de données. D'accord. Alors on verra qu'on arrive aussi à dire des choses sur la représentation neuronale de ces objets graphiques. On a fait les premières expériences, il n'y en a aucune dans la littérature, on a fait les premières expériences d'IRM fonctionnel, de la perception des graphiques, et c'est un système particulier, mais qui recycle la capacité de percevoir l'orientation générale des objets. Je m'arrête là pour aujourd'hui, comme ça on a peut-être un petit peu de temps pour discussion. Merci de votre attention.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.